Écoutez, je vous dis très, très sincèrement, je ne peux pas répondre en quelques phrases. C'est pas possible. Oui, je vous en remercie, mais ça fait partie de notre sujet. J'y ai fait allusion très, très rapidement en disant que le Dieu unique dont la Torah parle, c'est le Dieu unique souverain et du bien et du mal, et c'est à ce titre-là qu'il faut le connaître pour comprendre ce qui se passe. Je ne voudrais pas, ce serait trop dangereux d'aller plus loin trop rapidement, mais... Et c'est une question qui est permanente, qui s'attache à toute l'histoire humaine, c'est le grand livre de Job dans la Bible. C'est le livre de Job tout entier. Et déjà, dans la Mishnah, c'est à la fin de la Mishnah de Pirkei Avot, un très grand maître du Talmud a dit exactement ceci. Nous n'avons entre nos mains ni l'explication du bonheur du méchant, ni l'explication du malheur du juste. C'est déjà, on en a pris acte, on en a pris conscience. Cela renvoie à de tout autre sujet, bien entendu. Effectivement, c'est un problème grave. Et je pense qu'à ce niveau, la foi... C'est la foi en dépit d'eux. Bien que. Je veux dire, bien qu'il en soit. Bien, eh bien, nous allons nous arrêter pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain soir à 8h30 à la rue.
Ce soir, nous allons étudier le sujet de l'enseignement du Maharal concernant l'exil et la délivrance de l'exil. Vous avez intitulé cela « Dialectique de l'exil et du salut selon le Maharal ». Bien entendu, il ne va pas s'agir de l'ensemble de la doctrine du Maharal concernant ce problème. Je choisirai un ou deux thèmes, et en particulier un ou deux des du Talmud que le Maharal a pris pour base de son enseignement concernant la signification de l'exil et la signification du retour de l'exil. Bien entendu, tout cela, et ce sera l'objet du cours de ce soir, tout cela comporte des implications non seulement du point de vue de l'enseignement en général, c'est-à-dire de la compréhension que la tradition juive a eue de ce phénomène qui lui est propre, qui est propre à la société juive, l'exil et le salut de l'exil, mais il y a aussi toute une série d'implications contemporaines. Il sera évidemment très difficile très difficile d'éviter une convergence de ces implications. Comme nous sommes très nombreux et qu'il y a des problèmes de vocabulaire qui se poseront, alors j'ai pensé commencer par faire une brève introduction pour exposer le sujet. Ensuite, l'analyse de ceux des thèmes du Maharal que nous choisirons comme appui de cette question. Et en troisième partie, vous proposez un certain nombre de directions d'identification concernant les événements contemporains. Et ensuite, vous donnez la parole pour, à partir de deux ou trois ou quatre ou même cinq ou dix questions qui viendraient de vous-même, de reprendre le sujet de telle sorte de le définir une deuxième fois, avec plus comme perspective les implications contemporaines. Voici ce que serait le sujet de ce soir. Demain, au centre de Montflègue, à 20h30, nous étudierons l'événement du passé, l'événement type du passé de ce même problème, c'est-à-dire l'exil et le salut de l'exil, au temps de la sortie d'Égypte. Nous avons d'ailleurs intentionnellement choisi ce sujet d'étude pour cette semaine, puisque nous nous trouvons dans la période de Pessah, et par conséquent, il y aura directement des implications sur la liturgie de Pâques, la liturgie de Pessah. Et là, nous réfléchirons, donc, dans le cours de demain soir, sur le problème de la personnalité de Moïse. Je vous proposerai d'ailleurs, demain soir, un plan analogue. C'est-à-dire étudier un des thèmes concernant la personnalité de Moïse en tant qu'il a été celui qui, dans l'événement de l'Antiquité, l'événement exemplaire de l'Antiquité, de cette dialectique de l'exil et du salut, a incarné non seulement cette dialectique elle-même, mais l'événement lui-même. Et nous essaierons aussi de réfléchir au problème des implications contemporaines. Enfin, je peux déjà vous dire à l'avance qu'il s'agira tout simplement de comparer la position de Moïse au moment du problème du salut et de l'exil au temps du peuple hébreu et la position de Herzl en tant que fondateur de l'État juif contemporain dans ce même problème pour le peuple juif. Le mercredi soir, toujours à 20h30, à l'école rabbinique, au séminaire de la rue Vauclair, nous étudierons de nouveau ce même thème, mais dans le Talmud, ce sera une explication de texte, sur un passage du Talmud qui a été repris dans la liturgie de la Haggadah et qui parle précisément d'un temps où le souvenir de la sortie d'Égypte restant encore actuel et vivant, nous sommes déjà destinés à nous préparer à la réalisation liturgique d'une délivrance ultérieure, celle que nous sommes censément en train de vivre. Et nous aurons à étudier les raisons qui ont conduit les Talmudistes d'il y a 2000 ans à déjà prévoir les événements qui nous concernent à nous maintenant, et dans quel sens. Ensuite, jeudi soir, de nouveau au centre de Montflet, nous étudierons une des péripéties de l'histoire de Moïse, la tentative qu'il a eue au commencement de sa vie d'installer un autre peuple que celui d'Israël comme peuple du salut, c'était le peuple de Midian, et là encore, nous essaierons de comprendre les implications contemporaines. Je vous rappelle donc les quatre cours que nous aurons. Ce soir, nous essaierons de nous initier au schéma de pensée du Maharal concernant ce problème. Nous nous appuierons sur des textes du Midrash concernant la personnalité de Moïse comme libérateur, entre l'Égypte et le peuple hébreu, le problème de la double appartenance, de Moïse lui-même. Le troisième cours portera sur un texte talmudique concernant la libération des temps futurs par rapport au passé talmudique, donc des temps contemporains. Et le jeudi soir, le problème de Moïse comme législateur, la tentative de la messianité médianite, ce qui implique le problème du pseudo-Israël. Alors, nous allons avoir une semaine assez chargée, et ensuite, la clôture se fera Shabbat soir, après le Shabbat d'études, au centre de Montflet. Bien, alors, je vais donc entamer la première partie de cet exposé. Peut-être que vous arrivez à m'entendre sans le micro, non? Maintenant qu'il y a le silence. D'une définition proprement historique, c'est-à-dire au niveau des événements du problème qui nous occupe. Il y a bien évidemment deux dimensions à la messianité juive. Il s'agit pour nous de comprendre quelle est la finalité de la dispersion, mais en termes traditionnels de façon plus stricte de l'exil, et d'autre part, la finalité du retour de l'exil. Il y a donc deux pentes à la messianité, à l'expérience de la messianité, le mouvement qui va d'Israël vers les nations, la dispersion, l'exil, et d'autre part, le mouvement du retour. Or, en général, nous nous sommes tentés d'assurer à l'un et l'autre mouvement des finalités que j'essaierai d'énumérer tout à l'heure. Elles peuvent être définies de différentes manières, mais des finalités dont on ne voit pas apparemment le rapport dialectique. Les différentes doctrines qui ont essayé d'expliquer, premièrement, le fait historique de la dispersion de l'exil et celles qui ont été qui ont essayé d'expliquer le phénomène du retour, ces différentes doctrines arrivent à nous donner dans l'une et l'autre pente des réponses cohérentes, mais on n'arrive pas à percevoir toujours très clairement le lien logique, le lien dialectique de ces deux mouvements de l'identité d'Israël. Et à la suite de Judas Levi, qui a été le premier penseur juif du Moyen-Âge à systématiser ce problème, à la suite de Judas Levi, c'est surtout dans le Maharal que nous trouvons des analyses concernant non pas seulement une explication de ce qu'est la dispersion et une explication de ce qu'est le retour, mais aussi, et de façon plus précise, le lien qu'il y a entre ces deux mouvements. Par conséquent, c'est à une théorie de l'ensemble de ces deux pentes de la messianité juive, la messianité de type de signification universaliste, l'allée de l'identité des Juifs, des nations vers Israël. Nous allons essayer de réfléchir surtout dans l'articulation de ces deux pentes. Or, vous savez, et je vous le rappelle brièvement, que classiquement, en ce qui concerne le premier mouvement, la finalité, sinon la vocation de la dispersion, la signification de l'exil, on présente habituellement trois thèmes. Je vous les rappelle très brièvement, ce ne sera pas l'objet essentiel du cours ce soir, mais il faut les avoir en mémoire. Premièrement, la thèse de l'expiation. C'est-à-dire l'exil présenté comme une sorte de châtiment. Non pas un châtiment pur et simple, parce que le châtiment pur et simple serait la suppression du fauteur, de celui qui aurait fauté. Mais cette doctrine nous présente l'Israël de l'Antiquité, qui était chargé par la révélation biblique d'une vocation de peuple, de prêtre de l'humanité. Cet Israël de l'Antiquité, l'Israël des Hébreux, aurait failli. Et par conséquent, l'exil serait prévu, comme dans les conditions du contrat de l'alliance entre Dieu et Israël, l'exil serait prévu comme une soupape de rédemption. Il ne s'agit pas seulement d'un châtiment pur et simple, encore une fois, mais d'un châtiment rédempteur, d'une expiation. C'est la première thèse, on peut la dénommer la thèse théologique. Je la rappelle pour mémoire, nous aurons à y revenir dans les analyses sur les textes que je vais citer. Et il y a une ambiguïté, si j'ose dire, considérable dans une thèse de ce genre. Parce que présentée à la manière dont les prophètes d'Israël et dont les maîtres d'Israël l'ont présentée, elle a un certain sens, mais reprise par la suite, en particulier par la théologie chrétienne, mais aussi par d'autres idéologies, au compte de la culture, de la doctrine des nations, elle a eu finalement une résonance très différente de celle que le prophète d'Israël voulait lui assigner. Je ne nie pas l'existence d'une telle thèse, mais je voudrais mettre en évidence son caractère extrêmement ambigu, dangereux à manier, si j'ose dire. Et il n'y a pas de doute que cette explication a été très souvent employée. L'exil, finalité, expiation. Et pas expiation pure et simple, châtiment pur et simple, mais châtiment rédempteur, expiation rédemptrice. Il y aurait une faute à l'origine au niveau de l'être d'Israël et cette péripétie de l'exil aurait pour finalité, aurait pour vocation une épuration, un affinement, une guérison et au moment de cette guérison, le moment de cette guérison réalisée, alors délivrance, le salut de cette exil. C'est la première chose. Elle comporte à la fois un fond d'enseignement extrêmement important, cohérent, mais aussi une quantité très grande d'invraisemblance. Mais ça ne sera pas l'objet de l'analyse, je voulais la rappeler. Deuxième thèse, c'est la thèse de la mission. Il y aurait nécessité de la dispersion, nécessité de l'exil qui s'attache à l'identité d'Israël, parce qu'Israël est porteur d'une mission, parce qu'Israël est porteur d'une vocation, et en général, cette thèse affine une sorte de vocation d'enseignement plus que de témoignage à Israël. Israël serait chargé d'enseigner aux nations un certain message. Cette deuxième thèse est plus récente que la première. Elle est plus récente que la première. Je crois qu'historiquement, on peut la dater au temps de la société libérale juive, au temps du libéralisme philosophique, au moment de l'émancipation, lorsque les Juifs ont quitté les ghettos, tout cela est très schématique, eh bien, ils ont essayé de définir leur propre identité de diaspora après le temps des ghettos comme étant, comme se définissant dans la vocation d'une mission. Cette thèse est assez simple à définir, mais très difficile à comprendre. On n'a jamais compris quelle était la mission dont seraient chargés les Juifs dans l'exil. S'il s'agissait d'une mission d'enseignement, de transmettre pas seulement un témoignage, mais un message, on ne voit pas très bien de quoi il peut s'agir. Et puis, il y a une troisième thèse qui, précisément, tend à récapituler les thèses précédentes, mais à les dépasser par rapport au sujet qui nous occupe. Essayer de comprendre la dialectique entre ces deux, comme je le disais tout à l'heure, entre ces deux pentes de la messianité juive. Voici la première introduction qui, je crois, est indispensable pour entreprendre nos analyses. Le Maharal a traité de ces questions un peu dans tous ses livres, mais en particulier dans un livre qui traite de la signification de l'exil et de la certitude de la fin de cet exil, d'après la définition même du phénomène de l'exil, selon la tradition prophétique, talmudique et midrashique, et qui est de Netzach Israël. C'est un livre qui s'intitule « L'éternité d'Israël » et qui, apparemment, paradoxalement, traite de l'existence d'Israël en exil. Le thème général est le suivant, c'est le fait même de l'exil qui atteste la pérennité d'Israël. C'est le fait même de l'exil qui porte en lui la certitude, la preuve, que Israël est éternel, Netzach, Israël, que l'identité d'Israël est destinée à traverser toute l'histoire humaine, et ce caractère anormal de l'existence dans l'exil est en lui-même la preuve qu'il devra prendre fin, et c'est l'expérience de l'exil en elle-même qui porte la preuve du salut de l'exil, de la fin de l'exil. C'est une certaine vision de comprendre l'exil qui mène le Maharal à établir la certitude du salut. Un second livre traite aussi de ces questions, c'est Gevurot Hashem. C'est un livre qui est consacré plus directement aux événements de la sortie d'Égypte. Et nous avons aussi un certain nombre d'enseignements concernant ce problème dans le commentaire direct que le Maharal a donné sur la Haggadah de Pessah, sur le récit de la sortie d'Égypte. La première équation qui apparaît dans son enseignement est l'équation suivante. Que finalement, l'histoire d'Israël peut être comprise de deux manières. C'est soit l'histoire d'une nationalité spécifique qui est coupée de très longtemps d'exil. Et dans cette première vision, dans cette première définition, la manière normale, c'est-à-dire plus que normale, naturelle, la manière naturelle pour Israël d'exister serait à la manière d'une nationalité spécifique, et ce qui est à expliquer serait le phénomène de dispersion. Cette histoire d'Israël, considérée comme une histoire spécifique, est coupée de très longtemps d'exil. La deuxième vision serait que la manière naturelle d'exister pour Israël serait la manière de la dispersion et que ce qui serait à expliquer serait le temps de regroupement. Et nous avons là, bien évidemment, une dialectique entre la pente universaliste de l'identité d'Israël et sa pente nationaliste en termes contemporains. C'est la première équation qui apparaît. Or, ce qu'il faut bien comprendre, et là nous aurons en mémoire les deux premières thèses d'explication de l'exil que j'ai citées tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dispersion est apparue comme phénomène historique assez tard dans l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël commence, dans le commencement, au temps des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, il y a à peu près 3500 ans. Et puis, très tard dans l'histoire de cette famille, apparaissent les premiers épisodes de l'exil. D'abord l'exil d'Égypte. Et puis, il se passe très longtemps après la sortie d'Égypte, où, de nouveau, il y a une dispersion à la fin de l'époque du premier temps. Et puis il y a le retour dans la période du deuxième temps. Et puis encore 400 ans après, donc très longtemps après le commencement, le judaïsme devient uniquement un peuple dispersé. Dispersion qui a duré pendant 2000 ans jusqu'à à peu près le temps contemporain. Donc l'événement historique de la dispersion, ce caractère anormal pour une société humaine de vivre en dehors de son lieu naturel, Et vous comprenez, toutes ces implications ne sont pas simplement géographiques, elles sont aussi anthropologiques. L'identité d'une certaine manière d'être homme, qui semble-t-il va être fixée à un niveau absolument anormal d'existence, en dehors de son lieu naturel. Bien, je veux dire que, du point de vue de la situation historique, ce caractère anormal d'existence, c'est-à-dire du fait d'être situé en dehors de son identité normale et naturelle, apparaît malgré tout comme assez tard dans l'histoire de cette identité d'Israël. Mais d'après les textes bibliques, et c'est ce qui a frappé le commentaire talmudique, et ce sont ces thèmes que le Maharal va reprendre, d'après les textes bibliques, eh bien, au niveau de la prophétie déjà au patriarche, cela est annoncé dès le commencement de l'existence de l'identité d'Israël. Il y a là un premier thème sur lequel le Maharal nous invite à réfléchir, parce que déjà, la Gemara le signale. Et vous voyez à quel point cela met en évidence la difficulté de la première thèse que je vous avais signalé, la thèse de l'expiation, la thèse du châtiment pur et simple. Voici donc comment est notre problème. En fait, l'événement de l'exil apparaît assez tard, au moment de la destruction du temple, apparaît comme le bilan d'une histoire qui a échoué. Soupape de récupération, l'identité d'Israël va se substitue à elle-même dans une autre manière d'être, le juif de l'exil. Et déjà, ce caractère anormal force en lui-même l'espérance du salut. C'est l'essentiel de l'analyse du Maharal sur cette première équation. Mais malgré tout, nous nous apercevons, en lisant attentivement la Bible, que cette annonce, que cette révélation qui est faite déjà au patriarche concernant l'identité de leur descendance comportait déjà la prévision de la dispersion et donc de l'exil. Alors nous allons être maintenant occupés à une réflexion sur un texte qui porte sur ce premier thème. Ce texte se trouve dans le chapitre 14 de la Genèse. On nous raconte dans ce chapitre 14 de la Genèse qu'à un certain moment de son existence, Abraham, et c'est un thème essentiel au niveau de la vie d'Abraham, mais qui se retrouve en filigrane ou en mineur dans l'histoire des deux autres patriarches, Isaac et Jacob, Abraham semble être pris d'un doute concernant sa propre identité. Il s'est passé à son niveau une mutation dans l'identité humaine. L'histoire de l'humanité va recommencer à partir d'Abraham. Il y a là une mutation irréversible. Elle ne sera jamais dans l'ordre des rapports entre la créature et le créateur, dans l'ordre des rapports des hommes entre eux. L'histoire humaine ne sera jamais après Abraham comme elle a été avant Abraham. Abraham, par conséquent, a la révélation de cette mutation en lui. Il le sait. Et ça lui est confirmé de l'extérieur de sa conscience par la révélation proprement prophétique. Et cependant, cette promesse que la descendance d'une humanité régénérée, d'une humanité future, sera bien la descendance de cette manière d'être homme qui commence à émerger avec l'identité d'Abraham, cette promesse, il ne la voit pas se réaliser. C'est l'essentiel de ce qui préoccupe le patriarche dans le chapitre 14 et le chapitre 15 de la Genèse. Il a un doute quant à l'authenticité de sa propre identité. Parce que la réalisation, la concrétisation de la promesse n'apparaît pas. Il ne doute pas que ce que Dieu a promis se réalisera, mais il doute d'être vraiment celui à qui Dieu a promis cela. Et c'est là que Abraham entend la révélation dont je vous parlais tout à l'heure, que sa descendance est vouée à la dispersion. Vous connaissez tous ce verset. Lorsque Abraham demande à Dieu, en quoi saurais-je que vraiment j'hériterai de cette terre d'Israël qui est la terre où la société de la rédemption se réalisera à la fin des temps, en quoi je saurai que ma descendance est vraiment la descendance qui héritera de cette terre, Bamma Edar qui est Rachena, alors Dieu lui répond, Yadoar Tedar qui guérit Zaracha Beret Solaï. Savoir, tu sauras que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne lui appartient pas. Il y a un paradoxe dans la dialectique de la question et de la réponse. Abraham demande un signe qui lui assure la certitude de l'accomplissement de la promesse de l'héritage de l'Israël, de l'héritage de la terre d'Israël, et Dieu lui donne comme signe l'exil, et Dieu lui donne comme signe la dispersion. Je pense que la difficulté de cet enseignement vous apparaît très clair. Je voudrais tout de suite mettre en évidence que cette vocation à être dispersée, cette vocation de l'exil, s'inscrit donc dans l'identité de la descendance des patriarches avant même qu'il y ait éventualité de faute ou avant même qu'il y ait éventualité d'un certain message apporté ailleurs. C'est donc à l'intérieur même de l'identité d'Israël que s'inscrit cette double pente de la messianité, cette dialectique, pour employer de nouveau ce terme, entre l'exil et le salut. Semble-t-il, mais c'est encore mystérieux, on ne comprend pas pourquoi, semble-t-il que par définition, presque par prédestination, s'il existe une descendance des patriarches, elle est vouée à l'exil. Or, ce que le patriarche avait demandé, c'est le signe contraire. C'était le signe de la certitude d'une réalisation positive de l'histoire de la descendance d'Abraham. Eh bien, la Gemara posait la question suivante. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham pour que la descendance d'Abraham ait mérité un tel destin? C'est d'abord le premier texte qui va nous occuper et qui se trouve à la page 32 de la Gemara de Nedarim. Je vous lis brièvement cette citation. C'est un enseignement de Rabbi Abahu au nom de Rabbi Raza. À cause de quoi Abraham a été puni, sous-entendu au niveau de sa descendance, de telle sorte que ses enfants aient été asservis à l'Égypte pendant 210 ans. Première réponse. Parce qu'il a mobilisé des étudiants pour en faire des soldats. Première réponse. Oui. Et puis il y a là un verset très clair qui se trouve au verset 14 du chapitre 14. Dans la guerre entre les rois, et qui a eu pour objectif de délivrer l'autre de la guerre, autant de la guerre avec le roi de Sodome, alors le verset nous dit que Abraham a mobilisé tous les hommes qu'il était en train d'initier, disons, au monothéisme, il les a mobilisés pour faire la guerre et aller au secours de l'autre. Donc, première réponse, parce qu'il a mobilisé des étudiants de la yeshiva, enfin des étudiants quand même, pour en faire le salut. Deuxième réponse, parce qu'il a porté un doute sur la sincérité des attributs de Dieu. Effectivement, c'était déjà dans sa question, en quoi serais-je que vraiment je pourrais hériter de cette terre? Ce doute, en réalité, nous le savons, il l'a porté sur ses propres attributs, sur ses propres qualités, sur sa propre identité, mais la Gemara va plus loin, parce qu'il a douté de l'accomplissement des promesses, puisqu'il a posé la question où est le signe de l'accomplissement des promesses. Et si, effectivement, Abraham est cet homme qui porte en lui l'accomplissement de la promesse, le fait de douter de l'accomplissement de la promesse, le fait de demander un signe concernant l'accomplissement de la promesse, est révélateur du fait que l'on n'est pas peut-être l'homme pour qui la promesse doit s'accomplir. Il y a là, dans cette distance entre le doute porté sur soi-même et sa propre identité, eh bien, toute l'explication d'une épaisseur d'histoire qui a pour objet finalement de faire identifier l'identité elle-même et son espérance. Troisième réponse, parce que il a négligé de convertir les non-juifs, je dis les non-juifs au judaïsme, il faudrait dire les non-hébreux à l'hébreu. Parce qu'il a maîtrisé la conversion des hommes à sa propre révélation. Et ça se réfère à un verset très précis. Lorsque la guerre a été gagnée, cette guerre auquel le chapitre 14 fait allusion, lorsque la guerre a été gagnée, et Abraham n'a pas voulu garder le butin de sa victoire. Il l'a abandonné. Il a abandonné le butin de sa victoire. Alors il y a là trois directions sur lesquelles nous allons commencer à réfléchir. Je crois que d'abord, l'explication de base, c'est l'explication de base que nous donne le Maharal. Il ne faut pas voir cette faute qui est désignée par ces trois réponses au niveau de la personnalité d'Abraham lui-même. Là, la geste d'Abraham est bien la geste d'un commencement d'histoire. C'est un geste au commencement d'une histoire d'engendrement qui a pour objectif de faire exister une certaine société. Et finalement, c'est l'identité du peuple, de la société, qui est le rassemblement des descendants des patriarches, qui, en retour, donne l'identité du patriarche en tant que commencement, en tant que principe du commencement. Ça veut dire que l'histoire, selon la vision biblique, telle que nous l'a fait comprendre le Maharal, le temps de l'histoire, c'est toujours le temps contemporain. Israël, la société d'Israël, c'est toujours la société d'Israël au temps de l'instant contemporain de l'existence. Donc, à chaque instant, Israël est né que l'Israël de l'instant terrestre, de l'existence terrestre. Cet Israël a un passé et un avenir, mais finalement, la définition, l'authentification ou la justification de ce passé et de cet avenir est, si j'ose dire, entre les mains du contemporain de l'instant présent. Israël est toujours au présent et il a son passé et son avenir. Vous avez déjà compris que l'explication de la Gemara porte sur Israël présent, c'est-à-dire entre l'instant du commencement et l'instant de la fin. Ce ne sont pas du tout les hommes du commencement, les patriarches, qui sont, si j'ose dire, à critiquer dans cette critique que la Gemara lui donne, ni non plus les hommes de la fin. Ce sont finalement cette définition de la faiblesse de l'identité de l'homme de la promesse porte sur toutes les générations qu'il y a entre le commencement et la fin. Énormément de formules de notre liturgie l'indiquent. Israël, c'est nous, les hommes vivant maintenant dans l'existence contemporaine. Et puis nous avons eu des patriarches, et nous aurons des descendants. mais finalement le nom de nos patriarches dépend de ce que nous sommes, de même que le nom de nos descendants. J'essaierai de vous donner une image pour exprimer clairement ce que je voudrais dire ici, c'est que, bien entendu, nous sommes habitués à l'idée, entre parenthèses, surtout bergsonienne, de la durée, que la réalité du temps, c'est la durée, c'est ce qui dure. Mais finalement, il y a une autre vision du temps qu'utilise ici l'explication de la Gemara. Le temps réel, c'est le temps présent. Le temps réel, c'est le temps de maintenant. L'explication qu'a donnée la Gemara sur la raison de la dispersion porte sur les dimensions internes de l'identité d'Israël pendant tout le temps qui va du commencement à la fin. Elle ne porte pas sur l'identité d'Israël au commencement, ni non plus sur l'identité d'Israël à la fin. Je veux dire, en d'autres termes, les patriarches sont les héros de l'identité d'Israël dans les commencements, ils sont les pères, avos, ils sont donc les principes de l'identité d'Israël, ils sont donc justifiés par rapport à cette identité. Mais les hommes de la fin des temps, les hommes de la dernière génération, sont les hommes de l'histoire d'Israël réussis. Un diagnostic d'identité fort sur toutes les générations qui vont du début jusqu'à la fin, mais entre le début et la fin. Le début et la fin non compris. C'est-à-dire, ce geste d'Abraham de douter de soi est au niveau de la personne Abraham une vertu. Ce geste de la mobilisation des hommes voués à l'étude pour faire la guerre contre le mal sur terre est en soi une vertu. Ce geste qui concerne à laisser à chacun sa part dans la distribution des valeurs dans les sociétés humaines, est en soi, à l'échelle de l'identité des patriarches, une vertu. C'est lorsque ces mêmes thèmes travaillent la société d'Israël dans le contemporain de l'histoire que la Gemara y met en évidence un doute, y met en évidence une sorte de disqualification. Voilà comment le Maharal comprend pour rattacher les deux thèses dont nous parlions tout à fait au début. De quelle nature est cette force qui fait qu'Israël est en exil? Eh bien, et nous avons vu qu'il ne peut pas s'agir uniquement d'une doctrine d'explication par l'expiation, puisque cela est déjà prédit à Abraham lui-même. Ce n'est pas au niveau de la personne d'Abraham que nous devons chercher cette force, mais c'est au niveau de l'attitude de la société d'Israël pendant le déroulement des générations. Le Maharal a l'habitude de distribuer les vertus dans trois coordonnées. Ces trois coordonnées sont les trois coordonnées de l'épreuve de l'authenticité d'une certaine identité. Et le plan qu'il nous donne là est un plan très intérieur à la cohérence biblique, mais c'est lui qui, très certainement, pour la première fois, l'a mis en évidence. Totalement Israël, mais à l'échelle de toutes les générations de la contemporanéité d'Israël. Voilà dans quel sens on peut éclairer cette thèse de l'expiation. Dire tout un apprentissage de la vertu ultime telle qu'elle sera définie par la loi de Moïse lors de la confrontation avec les autres civilisations. Et en tout cas, dans ces trois coordonnées de l'épreuve de la vertu. Voici donc le premier texte. Il y a une difficulté d'être pour Israël à être totalement lui-même, et par conséquent, une épreuve qui dure autant de temps que dure l'histoire des sociétés, jusqu'à ce qu'Israël arrive à s'épurer, à se purifier de cette faiblesse. Nous retrouvons là les trois coordonnées principales de ce qui fait la culture de l'identité humaine. D'une part, la dimension spirituelle, d'autre part, la dimension religieuse, et d'autre part, la dimension morale. Et la conclusion que nous transmet le Maharal est extrêmement importante. Il a posé la question suivante. Pourquoi l'exil dure-t-il tellement longtemps? Voyez-vous, où est la vraisemblance d'une telle explication? un peuple affauté, et c'est une sorte de soupape de récupération du point de vue de l'alliance entre ce peuple et le Créateur que d'aller en exil. Mais c'est tout simplement, cette difficulté vient de ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes individus qui auraient fauté et ceux qui auraient à expier. Il y aurait là, plus qu'un scandale métaphysique, il y aurait là une invraisemblance. On ne comprendrait pas très bien s'il ne s'agissait pas d'une identité à l'échelle collective. S'il s'agissait d'une dialectique du châtiment à l'échelle individuelle, ce serait absolument invraisemblable. Cette thèse n'aurait plus aucun fondement. Et c'est la raison pour laquelle le Maharal, très profondément, pose la question suivante. Pourquoi l'exil dure-t-il si longtemps? Et il répond, lorsque la mise au point de telle ou telle vertu est facile à faire, lorsque le degré d'ascension est facile à atteindre, alors l'exil dure peu ou un peu plus longtemps. Par exemple, les vertus qu'Israël devait purifier et acquérir dans le passage de la civilisation de Babel après la destruction du premier temple, cet exil a duré que 70 ans. La vertu qu'Israël devait acquérir ou purifier dans le passage de la civilisation de l'Égypte, eh bien, cela a duré plus longtemps, 210 ans. Mais pourquoi l'exil présent dure-t-il si longtemps, 2000 ans? C'est parce que cela doit être une libération définitive, cela doit être réussi, et tant que cette épuration de l'identité n'atteint pas le stade définitif, alors on doit attendre. Je veux dire que l'enjeu est tel, il n'y a pas de quatrième chance, l'enjeu est tel que tant que à l'échelle collective, la société d'Israël n'aboutit pas à la certitude de soi au niveau de ces trois vertus, alors le temps de l'exil dure encore. La logique de la réponse du Maharal, c'est que la faute que l'exil vient punir, c'est la durée de l'exil lui-même. La faute que l'exil vient punir, c'est l'exil lui-même. C'est-à-dire cet entêtement de l'identité d'Israël à être encore à l'hôpital, à être encore dans la maison de guérison. Le fait de s'entêter à être encore en traitement, c'est le mot que je cherchais, eh bien, c'est le signe de la maladie. C'est-à-dire ce que l'exil vient punir, c'est la durée de l'exil. Est-ce que c'est suffisamment clair? Parce que c'est effectivement le propre de toutes ces générations entre le commencement et la fin de dévoiler cette inadéquation à la vertu ultime dans les trois dimensions que la Gemara a signalées. L'exégèse directe du verset le montre de façon beaucoup plus dialectique encore. C'est que dans les rapports entre l'homme et Dieu, dans les rapports entre l'homme et son prochain, dans les rapports entre l'homme et lui-même, cette identité humaine de modèle, Israël, n'est pas encore adéquate avec elle-même, ce qui, au niveau de la geste des patriarches, est une action du juge. Abraham a bien fait de mobiliser ses élèves pour faire la guerre contre le mal, c'était les élèves d'Abraham. Abraham a bien fait de lutter de lui, il nous a enseigné par là l'effort de la vertu d'humilité, on peut le prendre à différents registres. Abraham a bien fait d'œuvrer du point de vue de la sélection et de ne pas faire entrer à l'intérieur de l'identité d'Israël n'importe quoi dans le commencement. Je veux dire donc au niveau du geste des patriarches, il s'agissait de vertu. Mais cette apparente fidélité à ses positions d'Abraham, à travers le temps, serait en réalité une infidélité au niveau d'Israël constitué comme peuple. Ce qu'Abraham avait fait là dans le geste individuel devient la faute à expier pour le peuple. C'est là la logique de cet enseignement de la Gemara que le Maharal a voulu nous expliquer. Et je vous ai tout de suite confirmé cela. Cet enseignement se trouve dans le Gemara Tachon. Je vais tout de suite confirmer cela par un deuxième enseignement qui se trouve cette fois dans Messar Israël, au chapitre 13. Et là, le Maharal cite un passage de la Gemara de Shabbat. que je vais vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà étudié, et qui me semble être le volet, le deuxième volet de ce même enseignement. À un certain moment, dit le Midrash de la Gemara, le Nagara de la Gemara, à un certain moment, Dieu juge Israël. Et Dieu juge Israël est inadéquat à sa propre identité. C'est donc de nouveau le même problème. À un certain moment, dans le temps du Midrash, ce moment est contemporain à toute l'existence d'Israël, entre le temps des patriarches et le temps de la fin de l'histoire. Et le temps de la réussite de l'histoire d'Israël.